Salut les petits potes, je crois qu'on est de retour. Alors, je suis actuellement dans une position extrêmement confortable, j'ai un petit peu changé de setup, je suis sur mon rooftop actuellement. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et il se trouve qu'au-dessus de cet appartement, il y a un petit endroit d'une trentaine de mètres de carré, trentaine de mètres carrés, pardon, qui se situe pas très loin du Parc des Princes. Voilà, venez pas chez moi me stalker s'il vous plaît, mais qui me permet désormais de me poser dans un cadre assez sympathique. Voilà, là il est 17h à Boulogne, il y a du soleil, j'ai mes lunettes de soleil, je suis allongé dans un transat. Je pense que c'est le meilleur setup pour faire au tout et million épisode 7. D'autant plus que, vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Alors je vais tout vous raconter ensuite, non pas que j'ai oublié, hein. Il y a bien un épisode qui existe, il fait 52 minutes. Mais il n'a pas été publié pour des raisons que je vous expliquerai juste après. Mais j'ai bien retenu la leçon. Je sais maintenant que pour que ce podcast soit découvert, il faut que je le présente le plus vite possible. D'ailleurs, j'aurais peut-être même dû faire ça avant de vous parler de mon rooftop. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon, j'ai 25 ans et je suis le CEO et fondateur de Koudak, une agence d'acquisition. Voilà, on va dire comme ça, une agence d'acquisition sociale depuis devenue écosystème d'agence, puisqu'il y en a désormais trois dans ce petit groupe d'entreprises. Ça fait maintenant 3 ans que je documente ma quête vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'où le nom hein, Road to 10 Million. Je la documente sur LinkedIn, YouTube, Instagram et TikTok. Et ce format audio, c'est la version hebdomadaire où je skip un gros le temps de production, donc montage et écriture, pour vous délivrer un format des plus authentiques qui me permettent de prendre voilà, de vous donner mes impressions à chaud sur la semaine qui vient de se dérouler. Donc là, on va pouvoir faire les 2 dernières semaines parce qu'il n'y en avait pas la semaine dernière. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, je ferai attention pour les prochaines. Pour vous dire un petit peu où on en est, pardon, dans cette quête de Road to 10 Million. Nous sommes, voilà, l'année dernière, on a bouclé l'année à 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre record cette année, c'est 350 000 de chiffre d'affaires mensuel et nous sommes actuellement 54 personnes dans l'équipe. Ça fait du monde et donc, dans ce podcast, j'ai pour mission de te délivrer à toi le plus de valeur possible sur comment monter une boîte qui fonctionne en te montrant ce qui fonctionne chez moi et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, comme ça, tu peux éviter de refaire les conneries que j'ai faites et prendre les trucs bien. Parce que je te raconte tout dans cet épisode. Alors, revenons-en à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Donc, c'est l'épisode 7 de Road to 10 Million, on devrait déjà être au 8 normalement, parce que je l'ai enregistré. Et donc, vous savez, dans l'épisode précédent, j'ai une qualité d'audio qui est dégueulasse parce que j'avais oublié de brancher mon micro. Et donc, voilà, tout fier, la semaine dernière, je me pose le dimanche, je vous avais bien écrit l'épisode, enfin voilà, bien préparé au moins ce que j'allais vous raconter. Et au début, je fais des petites blagues sur le fait que j'étais un tocard la semaine d'avant. Voilà, j'avais mal branché mon micro, mais que cette fois-ci, vous m'entendez bien dans votre micro, enfin dans votre casque, parce que je parle dans un micro. Donc super, voilà, je m'engage dans un podcast des plus ouf. J'ai bien vérifié que le micro était branché à l'entrée dans le studio sur Riverside, pour ceux qui connaissent, qui est le logiciel avec lequel j'enregistre. Voilà, donc j'enregistre cet épisode, il se termine et à mon plus grand dam, lorsque j'écoute l'enregistrement, c'était encore une fois le putain de micro de mes écouteurs. Alors là, je suis un peu traumatisé, donc maintenant je revérifie beaucoup. Ici, je regarde, c'est bon, on enregistre bien dans le Shure. C'est bon, voilà, je suis tranquille parce que la dernière fois, je vous assure que j'étais persuadé et la séquence est très marrante. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu vous l'uploader parce que franchement, pendant 2 minutes au début du podcast, je fais haha, voilà. Quel trou du cul. Voilà, vous entendez bien là, hein. Vous m'avez pris pour un tocard qui sait pas brancher les trucs. Et en fait, avec une voix robotisée d'un mec qui parle dans son micro de casque. Voilà, donc j'avais 52 minutes où je vous avais fait 10 leçons de leadership basées sur un bouquin de Napoléon. Je les ferai probablement dans l'épisode prochain. Je n'ai pas envie de les refaire directement, là j'ai la flemme et j'ai d'autres trucs plus intéressants à vous raconter. Parce qu'on a un programme assez chargé dans cet épisode. On va commencer, vous savez, il y a 3 parties dans ce podcast. Il y a d'abord l'actualité de la semaine. Donc, je vais vous parler du team building qui a eu lieu la semaine dernière pour Koudak, des chiffres du trimestre numéro 2, puisqu'il est désormais terminé, et de quelques autres projets marrants, notamment une petite campagne dans le métro. Vous avez bien entendu. Ensuite, c'est l'heure de la dissertation hebdomadaire, c'est la seconde partie. Donc là, je vais vous parler de la fin de 9/16e, notre agence TikTok. Et ça va me permettre de vous préciser voilà, 2-3 points sur qu'est-ce qui fait qu'une agence fonctionne ou ne fonctionne pas, et comment trouver des... enfin, quels sont les bons types de personnes qui montent des bonnes agences. Et la troisième partie, c'est la réponse à vos questions. Donc là, cette fois-ci, je vous les ai posées sur Instagram quelques heures avant le début du podcast, donc ce matin, le dimanche 16 juillet. Allez me suivre sur Instagram, @theo.le.lyon, pour poser vos questions. Normalement, j'en ai pas encore... enfin, voilà, j'en ai peut-être 40-50, donc il y a de grandes chances que votre question ait une réponse. je vais répondre à une dizaine, je pense. C'est pas mal, 20% de chance, 20-25%. Donc allez-y maintenant, tant qu'il n'y a pas encore trop de monde, disons, qui écoute ce podcast. Ouais, même si vous êtes déjà énormément, je crois qu'on a dépassé les 7000 écoutes. Alors, vous savez quoi, je vais commencer par vous faire un petit update des stats. Parce que je le fais pas. Enfin, je le faisais au démarrage, là, quand on était en train de monter dans les charts. Puis après, on s'est un peu stabilisé dans le top catégorie carrière. Alors, attendez, je vais vous dire. Voilà, nous avons 6 épisodes qui ont été publiés. Je crois qu'on est à 6500, un truc comme ça. 6000, 7000. C'est en train de charger parce qu'évidemment, le Wi-Fi sur ma terrasse, c'est dégueulasse. Voilà, 6776 sur 6 épisodes. Donc, je suis très content qu'il y ait autant de personnes qui m'écoutent raconter des conneries tout seul pendant autant de temps. Alors, je me remets sur mon plan. Bon, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Oui, je vais essayer de vous faire un petit peu plus, comme dans une série américaine, précédemment dans Tout est Million, pour vous rappeler un petit peu quelle était l'intrigue de celui d'avant, et prochainement, à la fin de l'épisode. Je vous raconterai ce dont on va parler la semaine d'après, du moins d'un point de vue actu, parce que la partie dissertation, je la trouve souvent quelques heures avant le podcast. Ça sert à rien de trop anticiper. Donc la semaine dernière, je vous parlais de quoi ? Ouais, j'ai couru le 10K de Boulogne avec Jordan, mon ami de Kodak. Mon objectif, voilà, c'est vraiment. Attendez, ouais, parce que là vous devez pas comprendre. Je vous ai dit c'est un podcast sur l'entrepreneuriat et un mec qui commence à nous parler de son running, ça a envie de m'insulter. Pas si vite. Voilà, je mets toujours une petite partie au démarrage qu'il y aura aussi dans les actus de cet épisode sur mon actu personnel. Voilà, si ça vous intéresse pas, vous skippez. Mais c'est mon podcast, je vous emmerde. Donc j'ai couru le 10K de Boulogne, je suis assez fier de m'être mis un petit peu au running, même si ce n'est pas du tout la priorité sportive du moment, plus la salle en ce moment. Voilà, mon objectif c'était de courir, je l'ai fait sans préparation, donc je voulais courir en dessous de 51 minutes, pour ceux qui courent un peu, donc ce n'est pas une performance très ambitieuse, mais quand tu ne cours pas, voilà, moi j'aurais été content de le faire, et ça s'est bien passé, puisque j'ai fait 50-45, je crois, sur 10 km, ce qui fait une vitesse honnête. Avec une petite rotule un peu niquée, d'ailleurs, qui a pris cher, qui fait que je ne peux plus aller courir, là. J'ai réessayé la semaine dernière, impossible. Mais j'étais un peu dégoûté parce que mon Strava m'avait dit 48-30. J'étais persuadé d'avoir une perf de ouf, et quand j'ai vu les temps officiels, j'avais le seum. Donc, Strava, nique ta mère, tu m'as fait des faux espoirs. Je pensais que j'avais fait sous les 50. Voilà. Et bon, bah, c'était tout. Parce qu'en fait, la dernière fois, je n'avais pas fait de prochainement dans Tout est Million, donc je n'ai pas grand-chose sur quoi rebondir. Je prends une petite gorgée, et on va pouvoir attaquer les actus. Alors, un petit mot. Je suis rendu compte, j'ai oublié de vous en parler. Pour diffuser ce podcast, n'hésitez pas à le partager en story sur Instagram en me taguant. Donc, théo.le.lyon, vous connaissez. Et mettez une petite citation du podcast qui vous a plu ou une idée que vous avez bien aimée. Ça me permet de savoir un petit peu ce que vous kiffez pour en faire plus et un peu les thématiques qui vous plaisent. Parce que je regarde tout ce que vous dites sur le podcast pour m'en inspirer et vous servir à un truc qui vous plaît au mieux. Voilà, et je vous repartagerai aussi. Donc, sur la partie actu, on commence par les actus perso, comme ça c'est fait. En plus d'être extrêmement bien sur ma terrasse, là, avec le soleil qui commence à se lever, j'ai mis mes lunettes de soleil. Je rentre tout juste un week-end à Lille avec mes deux amis, David et Nathan, dans lequel on n'est pas parti faire quelque chose de particulier, juste faire un peu la fête. Donc, je suis notamment allé, pour les connaisseurs, au NU, N-U. Il y a un petit rooftop à Lille qui était super sympa et ça faisait plaisir un petit peu de faire un week-end entre potes parce que j'en fais pas tant que ça, mine de rien. Donc j'ai fait deux jours, c'était un peu fatigant parce que c'était soirée, même si moi je ne m'avais pas des cartons de ouf. Ça faisait du bien, ça m'a un petit peu aéré l'esprit, donc je vous conseille vraiment, si ça fait longtemps que vous n'avez pas changé de ville, changé d'environnement, même aussi en termes de potes avec lesquels vous passez du temps, faites-le, ça fait naître des nouvelles idées. Moi j'ai rempli mon carnet de notes dans l'iPhone pendant ce voyage. Donc voilà, je vous recommande. C'était aussi la semaine dernière l'anniversaire de ce précieux David. Enfin, David, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui a une place très importante dans l'histoire de Kodak et dans la mienne, puisque c'est un pote que j'ai rencontré au lycée, donc ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et c'est lui qui a setup la toute première caméra de ma chaîne YouTube, puisqu'il est vidéaste aujourd'hui. Donc, maintenant pour des clients bien plus renommés que moi, à savoir voilà, des Dior, des Louis Vuitton, etc. On a commencé quasiment ensemble, et à l'époque, voilà, il a découvert le montage. Enfin, il n'a pas découvert le montage, il a découvert plutôt la captation vidéo avec moi. Et il a énormément progressé depuis. Donc, c'était son anniversaire la semaine dernière. Je l'ai invité. Voilà, j'ai réservé un petit resto pour fêter ça qui s'appelle la Koya. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris. Voilà, on était 4-5. Au début, on devait être 2 ou 3 au dîner. On a été plutôt 5. Voilà. Donc, j'avais prévu juste d'inviter un petit nombre. Il se trouve que l'addition a été extrêmement salée. Et personne n'a proposé de me rembourser, ces petits bâtards-là. Ils se sont dit, oh, vas-y, Théo, il invite tout le monde. Allez, ça part. Donc, voilà, Max, Samy, Nathan, un peu de politesse, s'il vous plaît. Mettez un message, au moins proposez. Je vous aurais dit non, mais vous m'avez laissé une putain de... Ah, j'ai pris la soufflante à la fin du repas, là, l'addition, elle a tapé très très cher. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le resto, mais ça fait mal, même quand on gagne beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas mon cas, évidemment. Putain, ça part vraiment en couille, ce podcast. Qu'est-ce que c'est ? Je suis censé parler d'entrepreneuriat, je vous parle de restauration haut de gamme. Bon, on passe sur les sorties vidéo de la semaine, donc enfin, plutôt des deux dernières semaines, puisque voilà, c'est bon. Voilà, vlog Vivatech, ouais, j'ai sorti ça. C'était une première tentative de vlog, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. Et j'ai découvert ce qui avait manqué sur les pratiques précédentes, c'était Brian. Brian, il a rejoint l'équipe il y a quasiment à peine 2 mois, je crois. Voilà, donc un nouveau Brian, c'est un monteur qui a rejoint l'équipe d'Anthony, qui est notre aide aux vidéos, et qui s'est occupé de monter la vidéo du vlog Vivatech, et qui a fait une dinguerie. C'est une de mes vidéos préférées, même si ce n'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues. Je crois qu'elle doit en avoir 4000, hein, 4 ou 5000. Moi, je suis trop content du résultat, et j'ai trouvé que voilà, le truc se regarde bien, je trouve. Donc bravo pour ton travail, Brian. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Qu'est-ce qui s'y passe, notamment bah voilà, on a pas mal de footage d'Elon Musk qui est passé à Vivatech. Il y a ma conférence, enfin le Enlève tes chaussures qu'on a fait en live. Donc vous avez un petit extrait à la fin. Plus, ouais, voilà, une petite intervention sur BFM. Donc je passe à la télé le midi pour parler de Vivatech. Voilà, donc on a des extraits aussi. C'est cool. Voilà, donc sortie vidéo, première chose. Ensuite, on a sorti sur la chaîne Les Bruts e-commerce. Vous savez que c'est mon podcast sur l'e-commerce où j'interview des e-commerçants, hein, comme le dit le nom. On a sorti un épisode avec Charles de La Piscine Paris, qui est une très belle marque, voilà, qui fait plusieurs millions par an de chiffre d'affaires et qui a beaucoup de choses à nous apprendre, notamment parce que c'est une marque retail qui a dû se digitaliser. Donc les petits amateurs d'e-commerce qui sont actuellement en train d'écouter ma douce voix, allez faire un tour, puisque le mec est très très bon. La semaine dernière, j'ai aussi Silouane Pascal, pour ceux qui connaissent, qui est venu me tourner 24 heures dans ma vie. Donc il est venu lundi dernier. Je vous raconterai un petit peu, je ne vais pas empiéter trop vite sur la suite des actus, mais c'est un contenu qui devrait sortir sur sa chaîne YouTube. Voilà, il tourne des 24 heures dans la vie 2, et le premier, c'était avec, parce qu'il en a tourné un autre avant, c'était avec Guillaume Houbèche, mon ami Guillaume, fondateur de Lemlist. Et voilà, vous verrez que la qualité de production de son contenu est assez incroyable. Donc ça devrait sortir cette semaine, je ne sais pas, mais ça m'a l'air extrêmement rapide, hein, en termes de temps de montage. Mais bon, voilà, ils m'ont dit ça. Donc, voilà, vous allez peut-être voir le résultat, je le partagerai évidemment en story, je vous le relayerai. Mais c'était très marrant de faire ça et très fatigant. Et la dernière chose, c'est, j'en place une pour mon associé, du coup Paul Maher, qui vient de sortir une newsletter qui s'appelle Solve. Paul Maher, c'est le maître à penser de Kodak, c'est-à-dire c'est la personne, d'ailleurs pas juste de Kodak, hein. Je pense que c'est la personne dans mon entourage que je trouve la plus puissante intellectuellement, notamment parce qu'elle est capable de simplifier toutes ses réflexions en quelques mots. Et j'ai jamais rencontré une personne qui avait ce potentiel-là. Et donc, il a voulu en faire une newsletter autour de cette idée-là, de simplifier des idées complexes en très peu de mots. Et le premier épisode qu'il a envoyé, c'était sur la sagesse. Ça s'appelle Solve, S-O-L-V-E. Et c'est une newsletter sur Substack, faite par Paul Maher, P-A-U-L-M-A-H-E-R. Je vous recommande. Donc voilà pour les sorties vidéo, contenu de la semaine. Donc, pour la suite des actus. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être invité à un déjeuner organisé par les Slips français, qui a déjeuné un peu exclusif sur liste. Voilà, donc je suis très content quand je me fais inviter à des trucs comme ça. C'est Guillaume, donc Gibault, le fondateur, qui m'a invité. Et voilà, c'était pour annoncer une grande nouvelle, c'est qu'ils vont sortir un slip à 20 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour le slip français. C'est une boîte qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des slips à 40 euros. Donc aujourd'hui, pour continuer à grossir, ils ont besoin de rendre le truc plus accessible. Ils ont réussi en fait en mettant des gros minimums de quantité, à baisser le prix du slip. Et voilà, donc ils ont fait un déjeuner un peu sympa. Là, c'était au Monsieur Bleu, je ne connaissais pas, c'est au Trocadéro. Enfin, c'est près du Palais de Tokyo, quoi. Et voilà, donc très bon resto, j'étais très content. J'ai croisé plein de personnes super sympas. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une fédération française du prêt-à-porter, dont j'ignorais l'existence. Et voilà, une très belle tablée avec... des artistes, des journalistes, et surtout Guillaume Gibault, cette légende qui, en plus d'avoir fait le slip français, est en photo dans tous les couloirs à HEC. Donc ça faisait plaisir. Merci beaucoup Guillaume. Pour les actus un petit peu plus, Kodak. Donc il y a 2 semaines, c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode précédent de Road to 10 Million enregistré avec une qualité éclatée. J'avais fait un débrief complet du team building. On est parti 2 jours dans le sud, près de Lyon. Enfin, je ne sais pas si on peut dire dans le sud quand c'est Lyon. Bref, dans cette région. Et voilà, on s'est retrouvés à une 50aine. C'était trop bien, honnêtement, avec un programme très sympathique de team building. Donc, un déjeuner dans un bon resto. Puis après, on est parti faire du karting, ce qui m'a permis un petit peu de rappeler à tout le monde qui était le patron de ce sport. Voilà, j'ai mis une seconde au deuxième. Et c'est bien parce qu'il avait un petit peu gazé. Et il s'est rappelé voilà, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai 73,8% des parts de Kodak. Ce qui, évidemment, s'est donné en fonction des temps de pilotage. C'était super. Ensuite, on a loué un château. Donc, on a fait dormir tout le monde là-bas. Super soirée. Et le lendemain, voilà, on a laissé les gens profiter un petit peu du domaine. Et c'était trop cool. Parce que pour nous, c'est des moments qui ont toujours, qui sont assez importants quand on se retrouve en physique, vu qu'on est en remote. C'était aussi l'occasion de présenter voilà, les nouvelles boîtes là, qu'on est en train de racheter. Donc, celle de Jules, qui s'appelle Netcord, et celle de Tom, qui s'appelle Standaricom, une agence de création de communauté Discord et une agence d'emailing sur Klaviyo. Donc, vous entendrez un petit peu plus parler plus tard. On est en train de signer les papiers, donc je vous en parle parce qu'on est entre nous là dans Road to 10 Million, mais vous inquiétez pas qu'on fera une énorme com sur les réseaux sociaux après, notamment sur LinkedIn, avec une petite annonce, et on est aussi en train de préparer d'autres trucs. Voilà. Donc c'était l'occasion de les présenter à l'équipe, de faire un petit bilan du trimestre, puisqu'on a sorti les chiffres. J'avais pas prévu de vous en parler, c'est pour ça que c'est bien que le podcast soit pas sorti la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'ai dit je vous parle pas des chiffres, parce que j'en parlerai dans Road to 10 Million sur YouTube, que j'ai pas encore enregistré, mais j'ai décidé la semaine dernière de faire un post LinkedIn pour parler des chiffres. Donc je vais vous les donner juste ici. Je recharge mon post LinkedIn parce que j'ai fait tous les calculs. Donc sur le second trimestre de 2023, donc avril, mai, juin, on a fait un chiffre d'affaires de 964 400 euros. Ça fait plus 21,5% par rapport à l'année prochaine. Et là-dessus, on sort un EBITDA. Donc EBITDA, c'est notre résultat. De 193 600 euros. Ça fait 20,07% d'EBITDA, donc honnête. Et donc, quelques petites observations. Là, je vous relis un petit peu ce que j'ai mis sur le post LinkedIn que vous aurez peut-être raté. On savait que ça sera un trimestre assez calme, hein, le Q2. On l'a vu dans l'entrée de lead. Et puis, je pense qu'on a une conjoncture qui n'est pas ouf, même si on ne se cache pas derrière ça. On a notre CA qui progresse quand même. C'est cool par rapport à l'année dernière et par rapport au trimestre précédent, malgré la fermeture de 9/16e. Donc, ça nous retire une ligne de revenus. Hein. Donc, c'est quand même cool que ça progresse, même si, évidemment, on n'est pas content d'un 21,5% par rapport à l'année dernière. Je ne fais pas une boîte pour faire ces pourcentages de croissance, on va faire bien plus. Mais on a beaucoup travaillé sur des tâches de fond ce trimestre-là, notamment on a sorti des nouveaux dashboards pour nos clients, on a produit beaucoup d'études de cas, on a structuré la business unit tracking, on a trouvé un product market fit sur la nouvelle offre de Linker, qui est l'offre 360 de marque personnelle. Et bon, je vous épargne tous les détails. Si vous voulez aller voir les posts LinkedIn, je fais le breakdown par business unit, le chiffre d'affaires de Linker, du labo et de Kodak, avec les observations à chaque fois. Et donc, si vous voulez un petit truc marrant, quand on a les bidas, ça nous permet de calculer plus ou moins une valorisation de Kodak. Si vous vous demandez combien est-ce que ça vaut, cette boîte. Eh bien, donc le trimestre précédent, on avait fait 266 500 euros d'EBITDA. Donc, si on l'additionne à celui-là, ça fait à peu près 460 000 sur la moitié de l'année. Donc, si on fait x2 pour prendre un EBITDA annuel, ce qui ne sera évidemment pas exactement le cas, hein, ça fait 920 000 d'EBITDA. Et donc, vous savez qu'une agence se valorise en multiples de cet EBITDA. Le multiple, souvent, c'est entre x8 et x12, selon la conjoncture. Je ne sais pas où ça en est actuellement. Mais bon, de toute façon, cette métrique que je vous calcule est totalement arbitraire. Il y a plein d'autres facteurs, comme par exemple la croissance, la qualité des clients, etc. Bref. Et donc, ça ferait une valorisation entre 7 et 11 millions en fourchette. C'est bien, mais bon, comme on n'a pas prévu de revendre, on s'en branle. C'est cool de savoir que c'est un peu de valeur ce qu'on produit. C'est assez stable par rapport à la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais fait dans Road to 10 Million il y a 9 mois. Je vous disais qu'on avait été valorisé sur un coin de table. Hein, à l'époque, ce n'était pas du tout avec des calculs à peu près ce prix-là. Et c'est dû à plusieurs choses. Déjà, on se paye très grassement avec Kodak. On pourrait faire un EBITDA beaucoup plus gros. Parce que vous voyez, l'EBITDA, en gros, moi, je me paye à peu près 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois, si je me payais 5 000, ça rajoute 10 000 euros d'EBITDA par mois, donc de renta. On fait x12, ça fait 120 000. Si vous faites x10 en multiple là-dessus, boum, on gagne 1,2 million d'euros de valo. Donc en fait, cette prime de salaire que je me verse, elle est énorme, elle coûte très cher, mais on se la verse parce qu'on n'a pas envie de revendre. Donc on lissera les bidas plus tard, si jamais ça nous vient un jour l'idée, mais on s'en fout. Donc on préfère bien se payer, jouer le long terme, plutôt que maximiser les marges, ce qui fait aussi une différence sur la façon dont on vit l'aventure. Mais bref, je m'égare. Voilà, et donc la Valo, je pense que d'avant, là, que j'avais calculé dans l'autre Tout est mignonne, était un petit peu surestimée, parce qu'on a fait une fin d'année un petit peu plus calme et on était un peu parti sur des chiffres de croissance qui étaient plus hauts. Et je l'avais fait en lissant jusqu'à la fin de l'année, en fait, en disant, quand on discute avec ces personnes-là. Donc là, aujourd'hui, on a ancré cette Valo dans le. Voilà, enfin bref, on a les chiffres d'EBITDA, donc c'est un truc qu'on pourrait présenter à un investisseur. Et ça serait cool. Enfin voilà, ça sera cool au moins d'avoir ces trucs-là. Mais si on ne va pas le faire. Mais voilà, bref. Donc, je vous fais juste le calcul, parce que je sais que vous aimez bien quand je parle de chiffres, bande de petits salauds. Donc je vous le dis, ça vaut tant, j'ai 73,8% de ça, donc vous faites les calculs. Et ça vaut rien, tant que c'est pas liquidé, parce que c'est pas comme la bourse, hein, il faut un acheteur pour ces trucs-là. Il faut un acheteur prêt à payer ce prix. Et on est déjà à 20 minutes. Ok, j'avance. Je vous parlais de la campagne métro. Alors, qu'est-ce qu'on réfléchit à faire ? On aimerait bien profiter de l'été pour faire un petit coup marketing, parce qu'il y a des spots dans le métro qui sont pas trop chers. Donc des faces sur certaines stations, notamment des belles stations, donc des, voilà, Opéra, Châtelet, tout, etc. C'est des endroits sur lesquels il n'y a pas d'annonceurs sur août et parfois sur début septembre. Donc ça ne coûte pas très très cher forcément d'avoir un spot là-bas. Donc on aimerait bien trouver une idée un petit peu originale de campagne, un truc assez marrant à montrer et surtout pouvoir le réexploiter sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, pouvoir faire un petit coup un peu viral. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça là ? C'est parce que si vous avez des idées que vous voulez nous soumettre, on cherche des trucs qui pourrait faire 1, 2, 3 millions d'impressions sur LinkedIn. Et pas forcément des vues directement dans le métro. Non, on s'en fout un peu que les gens ils nous voient pendant qu'ils sont dans les transports. On veut surtout faire un gros coup à partir de ça sur les réseaux. Parce que vous savez que quand vous êtes dans le métro, on vous prend un petit peu plus au sérieux. Pas mal de gens qui fonctionnent comme ça. Donc on peut faire un bon arbitrage aujourd'hui avec entre visibilité qu'on prendrait sur les réseaux et crédibilité qu'on irait chercher sur les murs d'une station. Et je voulais terminer avec une dernière chose qui n'est pas vraiment dans les actus de la semaine, mais c'est plutôt des contenus que j'ai consommés et que je voulais vous partager. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu cette semaine. Le premier, c'est un podcast sur la chaîne de Modern Wisdom, qui est un podcast animé par Chris Williamson, donc pas pour ça, il faudra parler anglais, dans lequel il reçoit Chris Bumstead. Chris Bumstead, il est 4 fois champion Olympia. Mister Olympia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une compète de bodybuilding. C'est un mec qui est très connu sur les réseaux sociaux. Et bref, le podcast dure 2 heures. C'est une grosse star, hein, ce mec, la Chris Bumstead. Et il est super intéressant sur sa mentalité de champion. Il y a une notion que j'ai bien aimée, où il parle de la différence entre la première et la deuxième fois où il a gagné Mister Olympia, qui est une compète qui est extrêmement dure. Hein. C'est la Champions League du bodybuilding. C'est que la première fois, il a ressenti ce qu'il s'appelle, en anglais, il dit du relief, donc c'est du soulagement. Voilà. Parce qu'il avait eu tellement de pression avec le fait de gagner, qu'il n'a pas su apprécier le truc. Et sur la seconde victoire, il avait dit que c'est là où il a pu commencer à apprécier le process. Je trouve ça très marrant de devoir gagner pour se rendre compte qu'en fait ce qu'on voulait c'est pas gagner, c'est apprécier le chemin vers la gagne. Donc il y a plein d'autres apprentissages comme ça dans ce podcast qui sont super et qui viennent d'une personne très légitime. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est un bouquin qui s'appelle Unreasonable Hospitality et qui est écrit par un chef. C'est un chef d'un restaurant qui, lorsqu'il a été repris, avait 2 étoiles et qui a été qui s'est hissé jusqu'au rang de meilleur restaurant du monde. Donc la personne qui possède le restaurant a écrit un bouquin sur ce que ça veut dire faire du bon service, enfin de l'hospitalité. Donc dedans, il y a une notion qui est intéressante, c'est la différence entre ce qu'il appelle le service et le hospitality. Hospitality, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en français. Je ne suis pas allé chercher sur DeepL la traduction. Je pense que ça doit être peut-être l'hôtellerie ou un truc comme ça. Mais lui, il fait une différence entre les deux. Il dit que faire du service, c'est penser en black and white, noir ou blanc, donc faire oui ou non, faire ou ne pas faire quelque chose. Et la hospitalité, c'est créer de la couleur. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette citation. La couleur, c'est créer de la surprise, des moments inoubliables. Et il reprend une citation qui est... Enfin, voilà, une idée qui a déjà bien été popularisée, c'est que les gens ne se rappellent pas de ce que tu fais, ils se rappellent de comment est-ce que tu les as fait se sentir quand ils étaient avec toi. Donc voilà, faire du hospitality, c'est... tabler là-dessus, et donc je suis en train de démarrer ce bouquin qui m'a beaucoup plu, et peut-être que je vous ferai une vidéo dessus quand j'aurai terminé. Voilà pour les actus. On a combien de temps? Ça fait 24 minutes, ça va. On va pouvoir passer à la disserte. Je vais vous parler de la fin de 9-16e, je bois une gorgée. Alors, j'ai découvert récemment que j'ai énormément de clients qui écoutent ce podcast. Donc si jamais vous êtes client Kodak et que vous écoutez mes douces paroles, je vous embrasse fort, merci beaucoup de me faire confiance et me jugez pas trop hein, pour les trucs que je raconte là. je suis allongé dans un transat sur mon rooftop, donc évidemment moins cordial que quand je me présente à vous dans un call ou lors d'un événement. Et voilà, donc là on est entre nous. je passe notamment parce qu'en fait j'ai une cliente qui s'appelle Lucinde qui me parlait, parce que je viens de boire, c'est ça qui m'a fait penser, qu'elle me disait qu'à chaque fois je me justifie et je m'excuse de faire des bruits de gorge, mais en fait on les entend pas. Et voilà, donc fallait que quelqu'un me le dise, c'était une cliente. Merci Lucinde pour ça. Donc maintenant je vais boire en toute décomplexion. Et on va parler de la fin de 9-16e. Alors c'est aussi un sujet délicat parce qu'en plus des clients qui écoutent, il y a certains clients de 9-16e peut-être, mais il y a aussi très certainement des personnes qui ont travaillé sur 9-16e qui écoutent cet épisode. Je le sais de source sûre puisque voilà, ils ont déjà écouté certains des épisodes précédents, donc peut-être qu'ils écouteront celui-là. Vu comment il sera titré, je pense qu'ils iront l'écouter. Je pense que je titrerai la fin de 9-16e, enfin comment on a fail 9-16e, je n'ai pas encore décidé. Mais donc voilà, il faut, je vais en parler en public sans, tout en préservant voilà, les informations un peu confidentielles qui ne me concernent pas. Et si jamais voilà, les personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas à l'aise, enfin, voilà, vous reconnaîtrez si vous écoutez. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je raconte, vous m'envoyez un message et je supprimerai ça. Donc, pour vous décrire un petit peu ce que fait 9-16e. 9-16e, c'était la quatrième agence du groupe Kodak qui a vu le jour début 2022 officiellement, enfin mi-2022 officiellement, qui est déjà un projet depuis quelques temps et qui s'appelle 9-16e par opposition à 16-9e parce que c'est le format TikTok, donc le format vertical. Donc TikTok, c'est un phénomène que j'avais vu venir depuis pas mal de temps, parce que moi je fais des vidéos sur TikTok depuis 2020, et je voyais le reach organique qui était donné sur la plateforme. Je voyais que surtout que les marques françaises avaient eu du mal à dégainer. Donc j'avais capté un petit peu la vague assez tôt, au moment où des agences aujourd'hui qui ont un peu pignon sur rue s'étaient formées. Notamment j'avais discuté avec les mecs de Slick avant qu'ils lancent la boîte, que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et qui ont fait un mastodonte et un truc monstrueux. Et en fait, voilà, c'est eux la masterclass d'exécution sur ce sujet TikTok. Donc, si jamais vous voulez bosser avec une agence excellente là-dessus, allez les voir. C'est Slick, S-L-E-E-Q. Ils sont très forts. Et donc, nous, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est fail là-dessus. Parce que, bon, bref. Donc, en gros, l'idée, pourquoi est-ce qu'on pensait déjà qu'on allait être pertinent? Parce que moi, j'avais percé en individuel. Donc, aujourd'hui, j'ai à peu près 110 000 abonnés sur la plateforme. Et j'avais capté rapidement comment est-ce qu'il fonctionne l'algorithme. Il fonctionne d'ailleurs toujours de la même façon, c'est juste qu'il donne moins de vues. Mais voilà, avec les accroches, le watch time, etc. Et j'ai aussi rapidement capté que ce n'est pas forcément le réseau social qui allait m'apporter le plus de clients. Donc, j'y suis allé un peu mollo et je suis pas forcément... Enfin, j'ai pas succombé aux sirènes du reach. Même si voilà, je pense que j'aurais pu, si je m'étais focus sur TikTok, j'aurais pu facilement monter 1 million, 1,5 million d'abonnés parce que j'ai vu des amis qui l'ont fait. Avec brio, je pense à Hugues. Trijas, French Startupper, je pense à Dorian, Follow Dorian, qui sont des amis et qui ont, voilà, qui ont masterisé cet art-là. Donc, on a commencé, voilà, j'ai commencé par moi-même à essayer d'aller convaincre quelques clients de tester cette offre TikTok avec nous, donc produire des vidéos avec des créateurs, c'était ça un petit peu l'offre au démarrage. Ça n'a pas trop mal fonctionné, enfin du moins ça a beaucoup plu dans les discussions que j'ai eues, ce qui était une première preuve. Donc, j'ai délivré les premières vidéos, voilà, j'ai fonctionné avec les créateurs, j'ai fait un petit test, j'ai vendu 2-3 packs à 2 500 € à peu près. C'était une première traction. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ensuite, donc, je suis allé chercher quelqu'un dans l'équipe pour qui était du coup un performance manager, donc une personne qui gérait les comptes Facebook Ads, mais qui était assez sensible à TikTok. Il avait manifesté en fait son intérêt pour ce projet-là. Donc forcément, quand on a eu besoin de chercher quelqu'un, on a d'abord regardé en interne, on s'est dit, bah, il est bon, en consultant, on va le mettre sur TikTok. À l'époque, ça n'avait pas encore le nom 9-16e, on l'a trouvé plus tard. Donc avec, bon, je vous spoil la personne qui l'a remplacé derrière. Et ça m'a appris une première leçon. C'est que tu ne peux pas monter une activité, encore moins une activité d'agence, si tu n'as pas un intérêt personnel prouvé pour ce que tu es en train de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, imaginez que vous allez lancer une agence sur un sujet. Donc, prenons TikTok, hein, très simplement. Essayez de définir le profil parfait pour lancer cette boîte. Qui ça serait? Je pense que tout le monde arrive à peu près à la conclusion qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit partage du contenu sur TikTok, soit en consomme beaucoup, enfin du moins qui soit très exposé à l'écosystème. Et nous, ben voilà, on n'a pas du tout screené pour ça en fait. On a pris quelqu'un qui était bon chez Kodak, un bon consultant, bien carré, etc. Et qui avait manifesté de l'intérêt, de la déter, etc. Et on s'est dit, allez, ça part. Malheureusement, c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que t'es bon partout, même si t'es carré. Parce que parfois, une des raisons pour lesquelles tu peux être bon dans quelque chose, c'est que tu as un intérêt personnel avec le truc, ça a une histoire un peu. Enfin, tu as une histoire personnelle avec la plateforme, avec l'expertise, etc. Donc moi, sur Facebook Ads, c'est le truc que j'ai découvert en agence, que ça s'est mal passé, puis qui m'a permis derrière de gagner mes premiers euros en freelance. Donc, ça a énormément de signification pour moi, et c'est ça qui m'a rendu passionné dans le truc. Mais si tu l'as pas, c'est très compliqué de le faker. Et d'autant plus que c'est pas forcément un problème quand t'as pas beaucoup de concurrence. Mais imagine que t'as un concurrent qui est passionné par TikTok, qui a montré, qui a été vraiment skin in the game dans le truc, c'est-à-dire qui a essayé les trucs qu'il recommande à ses clients, comme l'ont fait par exemple les gars de Slick. Hein. À la base, c'est deux créateurs de contenu, même trois d'ailleurs créateurs de contenu, puisqu'ils sont plus que deux maintenant. Ça c'est l'équipe parfaite pour monter un truc. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient intéressés par la chose et la personne-là qu'on avait en interne n'avait pas prouvé, même si elle était excellente dans son autre travail. Donc c'est la première chose que je vous recommande si jamais vous lancez dans un business ou vous voulez lancer un business avec quelqu'un. Essayez d'avoir quelqu'un qui a prouvé son intérêt personnel pour le truc, parce que ça va vous faire chier si jamais il y a un concurrent qui est lui là, il part avec un avantage et c'est con de partir avec un retard dès le début sur ça. Il y aura des challenges beaucoup plus durs qui vont arriver derrière, donc partez pas avec un boulet au pied. C'est la première chose. Alors, voilà, donc cette personne-là, pendant 6 mois, on a essayé de faire fonctionner le truc, donc de janvier à, à peu près mai, juin, etc. Ça, à chaque fois qu'on faisait un pas vers l'avant, après, on en faisait 3 de recul. Ça n'avançait pas, on montait du chiffre d'affaires, mais on payait très cher les créateurs, etc. On n'a pas réussi à trouver un business model rapide, et surtout, on n'a pas réussi à exécuter assez vite. Et ça, c'est une autre chose, c'est pas parce que souvent, les gens très carrés, je bégaye un peu, je suis désolé, mais bon, c'est les joies du live. Les gens très carrés ne sont pas les gens qui exécutent le plus vite. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très contents de bosser avec des gens qui exécutent vite. Mais ce n'est pas forcément les bonnes personnes pour monter des boîtes. Parce qu'au début, tu as besoin de faire les trucs parfaitement. Tu as juste besoin de faire beaucoup de choses très rapidement. Et d'avancer très vite. Donc, cette personne-là, ça a fini par malheureusement pas le faire. Donc, on a dû se séparer carrément de la personne. Pour d'autres raisons aussi qui sont arrivées derrière. Mais ça relève vraiment de la sphère confidentielle. Donc ça n'a pas fonctionné. Et donc, on a derrière essayé de recruter quelqu'un d'autre pour reprendre le flambeau. Et il se trouve que là, on a reçu un CV incroyable d'une personne qui en fait a candidaté en faisant une vidéo TikTok. Et donc là, c'est une personne qui avait, je crois, quasiment 150 000 abonnés. Enfin, elle avait beaucoup plus d'abonnés que moi sur TikTok. Et vraiment, elle comprenait parfaitement les codes, etc. C'était magnifique. C'était vraiment limite, quand j'ai reçu le CV, je ne voulais pas qu'elle passe d'entretien, je voulais qu'elle vienne directement chez nous. Donc, elle avait montré en fait, par la pratique qu'elle avait les skills sur la plateforme. Donc on l'a recruté et progressivement en fait au démarrage elle était censée venir un petit peu aider cette personne, enfin la personne d'avant, et on s'est rendu compte que ça le ferait pas trop avec l'autre personne, donc elle s'est retrouvée avec un no man's land, en gros rien de construit, tout à construire, et il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Et là, ça a pas marché, mais pour une autre raison. C'est que, et ça, c'est pour le coup, c'est notre faute, c'est la faute de Kodak. C'est que tu ne peux pas monter un truc avec quelqu'un si tu ne l'associes pas. Déjà parce que ça a un impact sur les personnes que tu vas attirer. Un vrai entrepreneur, il n'accepte pas que tu le recrutes en CDI. Il veut des parts, il veut skin in the game, etc. Et la seconde raison, c'est qu'une personne que tu as en CDI et que tu n'as pas en tant qu'associé, bref, elle ne partage pas le risque avec toi. Une personne qui ne partage pas le risque avec toi, c'est quelqu'un qui ne partage pas la responsabilité avec toi non plus. Donc, tu ne peux pas compter sur quelqu'un à qui tu n'as pas donné la possibilité de récolter les fruits de son travail de façon exponentielle, donc avec du capital, quoi. Et ça, non, on ne l'a pas fait. On a voulu recruter quelqu'un. On n'était pas assez confiant. On n'avait pas trouvé la bonne formule. Et donc, aujourd'hui, on le fait différemment, forcément, sur les boîtes qu'on rachète, sur les fondateurs qu'on onboard pour monter des boîtes. On accepte de leur donner, on leur laisse la majorité de leur boîte pour que, nous, ils fassent opérer la magie et que nous, on soit juste. En train d'optimiser tout le reste, de faire en sorte que tout soit structuré et qu'ils puissent dérouler leur truc comme bon leur semble. Donc, si vous voulez lancer quelque chose... ne vous engagez pas dans un projet si vous n'avez pas de part, sinon vous n'êtes pas un fondateur. Vous êtes quelqu'un qui aide le fondateur et donc nous, on aurait dû associer la personne. Ou alors du moins, essayer de recruter un associé, parce que peut-être que ça aurait bloqué à d'autres endroits, et donc on n'aurait finalement pas recruté cette personne-là qui avait beau être excellente sur TikTok. Donc faites-le, Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'arrêter cette activité sur TikTok, c'est pas parce qu'on n'était pas bon. En fait, on a bossé avec des grosses marques, mine de rien, sur TikTok. On a bossé avec le Slip français, on a bossé avec le Club Leader Price, avec NutriPure, avec des marques qu'on n'arrivait même pas à voir sur la perf, sur nos business units historiques. Donc ça a vraiment généré un attrait. On s'était pas gouré sur le positionnement marché. Mais par contre, derrière, ça n'a pas marché parce que comment l'expliquer, c'est assez épineux comme sujet, parce que à la fois, il ne faut pas que j'en dise trop non plus sur des trucs privés. Mais ça n'a pas marché parce que il y avait pas, je sais pas comment expliquer. Parfois, vous savez qu'il y a des choses qui fonctionnent. Nexadium, ça fonctionnait. Hein. Il y a des mois, ça faisait 15, 20 000 de chiffre d'affaires. Mais vous ne les imaginez pas le truc aller plus loin. Vous savez que ça va demander tellement de souffrance et tellement d'efforts que vous préférez mettre vos efforts à côté. Et c'est la troisième leçon que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a toujours un coût d'opportunité aux choses. Le coût d'opportunité, c'est en gros l'argent que tu te perds à ne pas faire autre chose. Et dans le cadre des agences, c'est très piégeux, parce que t'as, théoriquement, ça coûte zéro de lancer quelque chose, parce que tu vends du cerveau, tu n'as pas besoin d'investir fortement, si ce n'est dans un salaire, quoi. Et quand tu as un associé, souvent, s'il est skin in the game, il se paye avec l'argent qu'il génère, donc quand il n'y a pas d'argent au début, il ne se paye pas. Et c'est pour ça que la diversification, c'est un piège avec les agences. Parce que tu peux perdre ton temps à essayer de générer... parfois, tu peux plafonner à 100 000 euros de chiffre d'affaires sur une business unit et tu te dis, bon, écoute, je vais lancer un truc à côté, ça va me faire un peu d'argent en plus. Et donc, il va t'arriver, ouais, tu vas faire 5, 10, 15 000, etc. Tu vas te dire, super, ça marche. Mais en fait, ce temps que tu passes à essayer de générer tes 5, 10, 15 000 à côté, c'est du temps que tu ne passes pas à essayer de débloquer ton plafond à 100 000. Et ça, on a mis un petit peu de temps à le comprendre. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans les agences qu'on lance, on fait très attention à 4 trucs. On a 4 règles qu'on n'a pas théorisées, mais que j'ai théorisées en préparant cet épisode. Il faut. Pour que je lance un truc chez Kodak, donc une nouvelle verticale, il faut soit que ça améliore significativement mon service existant, c'est l'exemple du tracking, on a lancé la business unit tracking qui est au sein de l'équipe Kodak. Ça pour le coup en plus c'est même pas une business unit à part entière, c'est pas une agence à part entière, c'est un nouveau service qu'on a dans l'agence. Donc le tracking ça permet de mieux avoir la data, de mieux faire notre travail de gestion d'ads, pour faire simple. Soit il faut que je puisse vendre ce nouveau service, cette nouvelle verticale, à une grosse partie de mon portefeuille client, ce qui est aussi le cas pour le tracking. On a la ligne privilégiée avec eux, donc on leur vend des setups, et ça s'est vendu comme des petits pains. Troisième règle, il ne faut pas que cette nouvelle verticale, ça tue ton positionnement. Ça, c'est important. C'est là où, c'est un truc qu'on n'avait pas compris, par exemple, avec Linker, notre agence de personal branding. Linker, en fait, ça s'adresse aux CEO de startups, ou d'agences, etc. Enfin bref, les gens exactement comme moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on travaille leur réputation. Ça ne s'adresse pas à nos e-commerçants, donc aux head of growth, les gens avec lesquels on parle d'habitude. Donc ça, on ne s'en est pas rendu compte au démarrage. On a eu trop de chance, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas vu au début, c'est que moi, j'étais aussi connu sur LinkedIn pour ce que je faisais sur LinkedIn, en fait. Donc c'est-à-dire, j'étais parfois... les gens disaient « Ah, c'est le mec de LinkedIn ». Donc finalement, j'avais une légitimité sur ce truc qui nous a permis quand même que ça se passe très bien sur Linker et qu'on ait une grosse croissance. Mais à la base, ça ne s'adressait pas. On n'a pas pu beaucoup l'upsell à des clients, quoi. Linker, aujourd'hui, il y a très, très peu de clients du portefeuille Kodak auquel on a réussi à vendre une prestation. Donc voilà, on a un peu eu de la chance sur ce truc-là. C'était pas un truc très réfléchi. Et donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on adresse que deux typologies de clients, des CEO de start-up, B2B, etc., qui viennent de lever et qui veulent travailler leur réputation, et des head of growth et directeurs e-commerce. Donc aujourd'hui, si je veux lancer par exemple une nouvelle agence, il faut que j'arrive à ce soit un truc que je puisse vendre à une de ces deux personnes-là. C'est la troisième chose, donc fais très attention à ton positionnement, parce qu'on est passé de agence e-commerce, parce qu'avant, par exemple, la créa qu'on avait, donc le labo, le studio de design, ça niquait pas notre positionnement sur l'ads. Limite, ça le renforçait. C'est la performance via la créa. Linker, aujourd'hui, tu as une boîte qui fait des gestions de campagne Facebook et de la marque personnelle sur LinkedIn, ils font quoi Kodak? C'est pour ça qu'heureusement, on avait un nom différent, etc. C'est incarné par Mathieu et qui own totalement son truc. Mais il faut faire attention. Je pense que si vous voulez vous diversifier, il y a des trucs plus logiques. Dans un truc plus logique, ça aurait été de lancer du SEO, par exemple. Ce qu'on n'a toujours pas fait. Donc c'est la troisième chose, donc c'est ces trois règles, je vous les rappelle, les trois premières, c'est soit ça améliore ton service, soit tu peux le vendre facilement à tes clients, et surtout tu t'assures en troisième lieu que ça ne tue pas ton positionnement. Et tu peux invalider ces trois règles si, et seulement si, tu trouves quelqu'un d'incroyable. Ce qui a, avec le recul, été le cas de Mathieu sur Linker, et aussi le cas par exemple d'Alix, qui monte la business unit influence au sein de Linker. Influence LinkedIn avec les créateurs, etc., pour faire exactement comme sur Insta, mais sur LinkedIn. Et ben voilà. C'est-à-dire que Mathieu, en fait, finalement, on a invalidé toutes les règles qu'il y avait au-dessus. Donc, ça n'a pas amélioré significativement mon service. J'ai pas pu le vendre facilement à des clients et ça a tué notre positionnement. Mais Mathieu est incroyable. C'est quelqu'un avec lequel on a eu un fit direct. Donc, ça, pour le coup, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne aujourd'hui, Linker. Donc, faites attention aux coûts d'opportunité et ne vous lancez dans un truc que si jamais voilà, ces quatre règles sont validées. Et ça me permet de faire un petit focus sur c'est quoi un bon fondateur d'agence. On a combien de temps du podcast ça? 39 minutes, très bien. Je n'ai noté 5. Ouais, 5 choses. D'abord, selon moi, sur nos milieux, un bon fondateur, c'est avant tout quelqu'un de technique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait faire son service, qui l'a déjà fait. Et donc, pas un commercial. C'est-à-dire quelqu'un qui... je sais pas, vient de chez Google, etc., qui a jamais fait son truc et qui dit oh, j'ai des contacts, vas-y, je vais trouver des gens pour faire pour moi. Oh putain, je suis en train d'avoir une crampe sous le pied. Ah ouais, ah là, là, c'est pas de chance là. Ah là 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 là, c'est les aléas du direct. Je peux pas du tout mettre en pause, j'ai promis. Oh lolo. Excusez-moi pour la pause, allez vous servir un petit verre d'eau. Ah putain, faut que je boive. Elle a crampe en live et ça part vraiment pas. Hein. Ah putain, faut que je boive. Hein. Bon, je vais attendre un peu. Ah faut étirer, faut faire quoi là dans ce cas-là? Faut boire de l'eau, étirer. Moi, c'est le dessous du pied là. Depuis que je cours. Ah, c'est bon, c'est en train de partir. Mes excuses. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Quel format. Je sais pas si on le recommanderait aux clients linkers de lancer un podcast tout seul comme ça. Je sais pas si c'est bon pour la cred. Ah, allez. Bon, on avance malgré la douleur. Je vous disais, un bon fondateur, c'est quelqu'un de technique. Quelqu'un qui a déjà fait ce qu'il va apprendre aux autres à faire par la suite. Seconde chose, je vous en parlais un petit peu avant, il faut qu'il y ait un lien personnel avec l'expertise qu'il dispense. Mathieu, par exemple, c'est quelqu'un qui mange LinkedIn, il dort LinkedIn, il ne parle que de LinkedIn. Donc en fait, maintenant, il ne parle que de marque personnelle, au global. Et en fait, il incarne parfaitement son produit. Et c'est pour ça que ça marche bien, c'est pour ça que je vous disais qu'il était incroyable, parce qu'on a senti la passion chez lui. Et ce truc-là, ça peut gommer tous les défauts du monde. Donc, le manque de structure, les erreurs, etc. Parce que c'est un pourquoi qui est très puissant et qui fait que tu vas développer tous les comment derrière. Donc, on dit souvent que celui qui a un pourquoi peut subir tous les comment. Ça marche quand tu as la passion. C'est la seconde chose. La troisième chose, c'est qu'un bon fondateur, c'est quelqu'un qui accepte de vendre. C'est quelqu'un de technique qui va vendre son... Voilà, qui n'a pas peur de vendre. Et il y en a plein de fondateurs qui restent des... de potentiels fondateurs qui restent des freelances parce que justement, ils ont peur de trouver des clients, etc. Mais vous vous rendez... En fait, ils ne se rendent pas compte que... Rien que le fait que ce soit dur et que personne ait le courage d'aller chercher des clients fait qu'il y a 1% des gens qui se lancent, donc la concurrence, elle est super basse. Et trouver des clients, ça ne veut rien dire. Si tu es technique, tu vas réussir à convaincre des gens. Pas besoin d'être un sales avec les dents blanches. C'est la troisième chose. Le quatrième truc, c'est d'avoir un biais pour l'action et pas un trop gros cerveau. C'est pour ça que mes camarades d'HEC font rarement des agences et que je suis très content aujourd'hui d'avoir Paul. Parce que Paul, tout seul, je pense qu'il n'aurait pas monté d'agence, mais aujourd'hui, il m'est très utile maintenant que l'agence est un petit peu créée, enfin roule, et qu'il faut la structurer et la scaler. C'est-à-dire que moi, j'étais bon dans l'amorce, c'est Paul maintenant qui va nous emmener jusqu'aux 10 millions, avec des process, de la structure, un service client aux petits oignons, et ça fait de nous une équipe assez unique, je pense, sur ce sujet-là. Voilà, et la cinquième chose, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit prêt à tout. Et ça vient souvent avec la passion. Prêt à tout, ça veut dire que demain, tu lui dis... faut que tu fasses que du sales toute la journée, il fait que du sales toute la journée. Tu lui dises, ah, faut que tu retournes t'occuper de clients pendant 3 mois, il le fait. Et pas quelqu'un qui va rechigner à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est très dur de bosser avec quelqu'un qui est en CDI. En CDI, il y a une fiche de poste, et c'est normal qu'une personne qui est chez toi en contrat, quand tu lui dis de faire un truc qui sort de la fiche de poste, il te dise, attends, c'est bizarre, c'est pas dans ma fiche. Totalement normal. C'est pour ça qu'on ne monte pas des boîtes avec des CDI. C'est comme ça. Ou alors des gens. D'ailleurs, il y a un format intermédiaire, c'est pour pas les agences qu'on lance, mais les gens qui viennent lancer des nouveaux services un petit peu au sein des agences. Donc je pense au tracking chez nous, qui est dans l'agence Kodak, et à l'influence sur Linker. C'est des gens sur lesquels on choisit de mettre des gros variables, mais vraiment des gros variables, donc de les payer beaucoup d'argent par rapport aux résultats qu'ils apportent. Donc souvent sur la marge qu'ils arrivent à générer en plus, etc. Ça, c'est le seul truc qui fonctionne et qui peut être un intermédiaire. Le temps que voilà, il se passe 2, 3, 4 ans et que vous vouliez leur filer des parts ou pas, selon ce qui se passe derrière. Mais c'est un très bon système intermédiaire parce que tu as plein de gens qui sont plus intéressés par gagner beaucoup d'argent que forcément avoir les parts d'un truc. Mais en tout cas, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est assez rare, sans énormément de travail. Mais c'est un petit format qui peut être intermédiaire un certain temps. Mais ça ne marche pas quand il faut créer un truc de zéro. Hein. C'est vraiment juste quand la personne devient. Enfin, c'est un niveau de responsabilité qui est entre les deux, entre créer un truc et scaler un truc. Enfin non, pas entre créer un truc et être embauché dans une agence. Il y a entre les deux, voilà, quelqu'un qui va lancer un truc un peu nouveau. Donc là, il faut vraiment qu'ils soient un peu skinny de game d'une façon ou d'une autre. Sans forcément passer des parts, vous pouvez avoir des gros variables sur le chiffre d'affaires généré. Bref, avec skinny de game, quoi. Voilà, bon, donc en gros, c'est cinq choses. Je vous refais la checklist du bon fondateur. Il faut que ce soit quelqu'un de technique, il faut que ce soit quelqu'un qui a un lien personnel avec son expertise, qui ait envie de vendre, qui ait un biais pour l'action et qui soit prêt à tout. Et le biais pour l'action, je me rends compte, j'ai pas trop détaillé, j'ai plus détaillé pourquoi est-ce qu'il fallait pas avoir un trop gros cerveau. Le biais pour l'action, c'est quelqu'un qui est capable d'aller vite, ce qu'on n'a pas su faire sur 9-16e au début, donc avec la première personne, qui va être capable de tout détruire ce qu'il a construit pendant un mois pour repartir de zéro, sans rechigner, sans être triste, etc. Et donc maintenant, voilà, pourquoi est-ce qu'on a raté 9-16e ? C'est parce qu'on ne voyait pas de futur et qu'on s'est rendu compte rapidement qu'on a fait un constat très simple, c'est que si on avait dû relancer aujourd'hui une activité TikTok, on ne l'aurait pas relancé avec les personnes qu'on avait en interne. C'est un constat assez difficile, mais c'est comme quand tu as un portefeuille d'investissement et que tu te poses cette question, est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais tout ton argent liquide, tu rachèterais toutes les actions que tu possèdes ? Si tu réponds non pour certaines des actions, il faut les vendre aujourd'hui. Parce que ça veut dire que tu es en train de faire une erreur. Donc ça s'appelle la sunk cost fallacy. Donc le biais de coût perdu, je ne sais pas quoi là. Donc tu dis, puisque j'ai investi déjà beaucoup d'argent dans quelque chose, alors non, je ne peux pas le lâcher. Mais en fait, non. Ton argent, tu l'as déjà perdu. C'est trop tard. Soit tu peux en perdre plus, soit tu liquides et tu limites les pertes. C'est aussi une vraie skill, hein, comme au poker, savoir limiter les pertes. Donc on a su le faire, ça a fait un peu mal, mais c'est un petit peu le prix qu'on saurait qu'on aurait à payer. Parce qu'on est un peu foufou, hein. On va dans tous les sens, on lance beaucoup de choses. Mais si tu lances beaucoup de choses sans savoir les fermer derrière, tu vas dans le mur. Donc on a su les fermer, ça fait plaisir. Enfin non, ça fait pas plaisir, mais je suis fier quand même de cette décision, même si elle a été très dure pour tout le monde. Et donc, comment est-ce qu'on arrête proprement une activité ? Trois points. La première chose, c'est qu'il faut préparer les personnes dans l'équipe. Donc essayer de mettre au courant, de donner le plus d'informations possible sur quelle est la santé de l'entité dans laquelle ils bossent. Parce que vous serez surpris de savoir à quel point beaucoup de personnes, beaucoup d'employés n'ont aucune idée en fait de ce que ça veut dire pour une boîte être en bonne santé, de si la boîte va bien, va pas bien. Donc, là, en l'occurrence, 9-16e, ça n'allait pas très bien. Ça allait vite fait, ça vivotait, ça nous allait pas. Ensuite, dans le respect, souvent, en fait, tu sais très très vite que tu vas devoir arrêter l'activité, mais tu peux pas arriver en mode hop, c'est fini, tout le monde dégage. Ça, c'est pas possible. Même si ça te ferait gagner de l'argent, malheureusement, il faut mettre du respect entre les deux. C'est-à-dire que les gens sont pas des animaux. Ils ont travaillé depuis longtemps sur quelque chose et ton travail, c'est d'effectuer tout ce travail de nuance, donc pas jeter bébé avec l'eau du bain, expliquer ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour essayer de sauver les meubles, et de se mettre un dilemme. En gros, bon, il faut qu'on ait attendu tel truc avant un mois, sinon malheureusement on devra prendre des décisions difficiles. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et souvent vous allez vous rendre compte que si vous avez bien préparé le truc, au moment où vous annoncez que vous allez arrêter l'activité, et la personne sera arrivée aux mêmes conclusions. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et donc, ça mène à la troisième chose, c'est assurer le départ. Donc, respecter. Enfin, c'est encore une fois un peu sur le respect, mais c'est quand une personne part, tout ce qui se passe entre le moment où vous lui annoncez qu'elle part et le moment où elle part, et même après qu'elle soit partie, ça montre à quel point vous êtes une personne respectable vous-même. Donc, comment est-ce que vous présentez le départ d'une personne ? Vous respectez toujours. Donc, avec la nuance que vous lui avez présentée, vous la présentez également au reste de la boîte pour expliquer ce qui allait bien. Nous, en l'occurrence, c'était très simple. Il n'y avait aucun problème de compétence. On avait les bonnes personnes d'un point de vue compétence, mais il nous manquait quelqu'un, un entrepreneur auquel on aurait dû donner des parts pour ce truc. Et voilà. Et donc, vous assurez que l'offboarding soit nickel. C'est comme avec les clients. Quand vous n'avez plus rien à gagner, comment est-ce que vous vous comportez ? C'est là où tu vois les connards. Donc là, nous, on essaie de faire... on file des cartes cadeaux du coup aux gens qui ont bien bossé, pour qu'ils se remettent bien. Quand on leur dit qu'ils peuvent demander aux futurs employeurs de nous appeler, on fera des recos. Et si vous pouvez aussi aider à trouver la solution d'après pour ces personnes-là, parce que malheureusement, souvent les gens subissent un peu, surtout quand c'est une activité qui s'arrête. On n'a pas viré des gens, c'est juste que l'activité s'arrête, et donc forcément, quand tu bosses dans une boîte dont l'activité s'arrête, il faut que ça s'arrête aussi. Voilà, c'est des gens desquels on ne se serait pas séparé s'il n'y avait pas eu ces circonstances-là, donc forcément, c'est des gens qu'on peut recommander. Insistez-le, faites tout ce que. Voilà, creusez votre cerveau pour savoir comment est-ce que vous pouvez aider les gens en question. Pour conclure, 9-16e, c'était notre premier gros fail. Ça a été difficile, mais à la fois, ça a fait du bien de savoir qu'on était capable de prendre cette décision, même si elle était très dure, d'arrêter pour se concentrer sur autre chose. Et ensuite, ça nous a fait un peu redescendre sur Terre, sur le fait qu'on n'était pas immortel, qu'on n'était pas des génies surtout, et qu'il fallait travailler, être très focus, savoir. Se recentrer sur ce qu'on fait de bien, capitaliser dessus plutôt que d'essayer toujours de lancer des choses nouvelles. Et je pense que sur le long terme, ça aura des conséquences positives à la fois pour nous et pour les personnes aussi qui ont travaillé chez 9-16e. Voilà. Donc, je vous embrasse aussi si vous écoutez. Voilà, les deux. Voilà, mais je ne sais pas comment dire, mais mes deux. Bref, vous vous reconnaîtrez. Voilà, je vous embrasse. On passe à la partie questions. On a combien de temps ? 49 minutes. Alors là, vous m'en avez donné, mais une chier. Putain, mais j'en ai tellement. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde, parce que même entre le début du podcast là et maintenant, y en a plein qui sont rajoutés. Donc, je vais essayer de les charger. Et on va regarder ça. Alors, bon. Nous avons Medelm212 qui me dit comment rebondir après avoir tout perdu. Ah, alors ça m'est jamais arrivé de tout perdre, donc vraiment de me sentir dans une situation où j'avais tout perdu, du moins pas sur la partie business. Par contre, j'ai eu des moments où j'ai eu l'impression de repartir de zéro. J'ai eu des trucs cons et assez perso, mais quand j'ai quitté mon stage en Australie, j'ai eu l'impression d'avoir plus rien, de pas savoir quoi faire. Et après, dans des moments un peu plus perso, donc moi, mes parents ils ont divorcé, j'ai un peu ce moment-là après où j'avais un tableau blanc, dans des ruptures aussi peut-être. Et donc, du coup, c'est des moments qui sont des terreaux fertiles, dans lesquels il y a évidemment de la douleur qui se mêle, mais qui sont, particulièrement chez les mecs, des moments où, enfin, une force surhumaine, si tu sais l'exploiter. Enfin, je sais pas si c'est une force, c'est pas une force surhumaine, évidemment, tu peux transformer ça en une énorme période de croissance si tu es prêt à manger la merde. Et à utiliser cette énergie pour construire quelque chose. Donc en gros, comment rebondir après avoir tout perdu ? Ne te terre pas, tu vois. Fais des trucs. Donc, et c'est pas forcément dans le business, je sais pas, motive-toi dans quelque chose, apprends le piano, va à la salle, et fais quelque chose de façon intense, et essaie de devenir une meilleure personne. Et tu vas voir que tu vas avoir plein d'opportunités qui vont arriver. Juste, voilà, repars de zéro, tu te dis putain, écoute, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien. Autant tout reconstruire et refaçonner. En fait, c'est un peu parfois une bénédiction. C'est-à-dire que t'as plus rien à. En fait, quand t'as rien, tu peux faire ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, j'ai des trucs à perdre. Je peux pas. Quand je vois une opportunité, je peux pas sauter dessus. Toi, ton tableau, il est blanc. Tu peux écrire ce que tu veux dessus. Et c'est un peu une bénédiction, dans un certain sens, si tu es capable de survivre à cette douleur. Donc, force à toi. Et c'est bizarre de tout perdre. En vrai, tout perdre, c'est quand même assez rare. À moins que tu fasses de la start-up très risquée ou alors que t'aies fait un business un peu bizarre. Et remets-toi dans un business où tu peux ne pas tout perdre. Enfin, voilà, et remets-toi surtout dans un business où si jamais tu perds tout, tu ne regrettes pas. C'est-à-dire que tu as quand même apprécié l'aventure. Enfin, c'est un petit peu un de mes motos. Voilà. Alors, comment réduire le process de facturation en 2 ans ? N+1, N+2. Process de facturation en 2 ans ? Mais qu'est-ce que tu factures en 2 ans ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, mais ce qu'il faut faire, juste la facturation, de toute façon, c'est pas un truc sorcier. Faut juste rappeler aux gens qu'ils doivent de l'argent à des intervalles réguliers et tu vas voir, tout le monde te paye. Hein. Faut se mettre à avoir un peu d'empathie pour eux et c'est pas... toute leur journée, ils sont pas en train de penser à la facture qu'ils doivent. Donc, ton travail, c'est de revenir régulièrement les voir jusqu'à la date et de leur rappeler un peu les conséquences de pas. Si jamais ça fait trop longtemps, les conséquences de pas te payer. Et nous, on n'a plus de problème depuis qu'on fait ça. Je sais pas trop ce que tu voulais dire. C'était Antonin Boubi. B-O-U-B-E. LM-CRPT. J'aimerais en savoir plus sur tes méthodes de fonctionnement RH. Comment tu recrutes ? Bon, alors nous, on a extrêmement d'inbound. On a beaucoup de gens qui candidatent chez nous via LinkedIn. On fait toujours ça. Donc, nous, c'est une offre sur LinkedIn qu'on pousse en gratuit et qu'on réupload tous les jours. Parce que comme ça nous fait remonter un peu en haut des algos. À partir de là, il y a un premier entretien, enfin, il y a une sélection sur le CV, hein, normal, on ne demande pas de lettre de motivation, personne ne les lit. Sélection sur le CV, juste pour être sûr qu'on est des gens qualifiés pour passer le premier entretien. Un entretien RH, puis un entretien avec le manager, puis une étude de cas, puis après un petit entretien avec café avec l'équipe, et qui est un peu plus chill, pour voir si ça match. Et après, ça rentre. Et les méthodes de fonctionnement, voilà. Et puis parfois aussi, on chasse un peu. Il y a certains profils, bon, c'est un peu terrible, mais souvent les meilleurs profils, ils sont en poste. Et les gens, ils ont un travail. Hein. Si tu arrives à les chasser, c'est cool, mais c'est souvent des trucs de long terme. C'est-à-dire qu'on m'avait beaucoup recommandé d'avoir une liste de 10 stars avec lesquelles tu rêverais de bosser. Et voilà, il faut entretenir des relations avec eux, c'est comme faire du sales. Quentin, BJA, ça donne quoi depuis la vidéo sur tes placements financiers ? Alors, j'ai arrêté de faire la vidéo sur les placements financiers parce que c'est pas du tout dans ma ligne éditoriale. J'en avais parlé, je crois, d'ailleurs, dans un précédent podcast. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de nouvelles. Mais ouais, j'ai continué à investir et j'ai un petit peu changé de mentalité aussi par rapport à ça. Je suis moins dans le mettre de côté pour l'avenir, etc. Voilà, la vingtaine, elle passe très très vite. J'ai déjà 25 ans et bientôt 26. J'ai commencé à faire ces vidéos quand j'en avais 23. Donc rien que ça, voilà, bref, le temps il passe très très vite. Donc il faut quand même savoir le dépenser tant que tu es jeune, en bonne santé et tout. Donc je cherche maintenant plus à trouver des façons d'augmenter mon bonheur, enfin de dépenser mon argent pour augmenter mon bonheur. Donc souvent dans des expériences avec des potes, etc. ou avec la famille, plutôt que de tout mettre de côté. Et donc maintenant je vais privilégier l'investissement start-up, notamment parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto. Tu peux prendre à peu près toute la case crypto que tu voyais dans cette vidéo-là et diviser par 10, c'est à peu près ce qui me reste. Le reste est stable. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur l'investissement, c'est dites-vous, pourquoi est-ce que, avant d'investir dans quelque chose, pourquoi est-ce que vous allez gagner de l'argent et pas le reste. Donc les 97% d'autres personnes qui perdent de la thune en invest. Si vous n'avez pas de réponse claire à cette question, c'est que vous allez faire partie des 97%. Est-ce que tu serais prêt à faire du mentorat avec des jeunes entrepreneurs? Alors, Gaspou FRN, non, absolument pas. Je n'ai pas du tout le temps pour ce truc. La seule raison pour laquelle je pourrais accepter de le faire, ce serait pour aider les gens à monter des agences, peut-être, et dans le but derrière, d'ajouter ça à l'écosystème Poudac. Le but, la seule façon où j'accepterais de faire de la formation un peu la agence, d'aider les gens à faire un ensemble de masterclass sur 4 à 6 semaines, quoi. Ce serait pour identifier des gens qui sont bons et avec lesquels on voudrait monter quelque chose, mais j'ai pas envie de tomber en fait dans cette partie-là, mentor, business, formateur, SMMA. Alors déjà, s'il y a un mec qui me dit SMMA un jour, dans les questions, etc., je le bloque. C'est un truc de dropshipper, c'est un truc d'opportuniste. Nous, on fait ça parce qu'on aime le service, pas parce qu'on gagne de la moula à tout prix sur Internet, business en ligne, mon cul. Donc non, je ne ferai pas de mentorat. J'en vois beaucoup, des jeunes entrepreneurs, entre guillemets, mais j'en suis un aussi. Mais je ne suis pas mentor de trucs. Ça ne m'intéresse pas. Vous comptez sortir un e-book e-commerce à prix brutal pour Black Friday? Je ne sais pas, Quentin. On va actualiser certainement notre partie formation, donc la fabrique à brut, comme tous les ans. Mais je ne sais pas, peut-être qu'on fera une offre. Mais déjà, on va reproduire le contenu. Donc, c'est Paul qui est en train de travailler dessus. Ça va être chambé. Ça va être chambé, hyper actualisé 2023, avec le tracking, les nouvelles pratiques, la créa, les dashboards, etc., des interventions de clients et tout. Ça va être franchement trop, trop bien. Il y a moyen de prendre un café avec toi, me dit PJ Up. Alors non, et pourquoi? D'ailleurs, je peux te filer un conseil là-dessus. Il faut que les gens ils aient quelque chose à gagner, en fait, faire ça. Pourquoi j'irais prendre un café avec toi? Il faut que tu répondes à cette question de façon très courte et que tu m'expliques. Et c'est comme ça que tu vas avoir des gens qui vont accepter de prendre des cafés avec toi, enfin des gens quali, je pense. Moi, quand j'ai envie de voir quelqu'un qui est plus avancé que moi, j'essaie de tout faire en sorte que ce soit sans friction et le plus de value pour lui. Donc, c'est pour ça que le podcast, c'est super. Je les invite, tous les gens que j'ai rencontrés dans Enlève tes chaussures, si je leur ai demandé « tu veux prendre un café avec moi ?», ils m'auraient tous dit d'aller me faire enculer. Donc, give first, donne-moi quelque chose. Voilà, pourquoi j'irai prendre un café avec toi? Parce que malheureusement, des demandes comme ça, je reçois beaucoup. Donc, je ne pourrais pas sélectionner la tienne par-dessus les autres, ça serait injuste. Christophe.cn, où en es-tu de la génération de la création de nouvelles agences? Quel secteur est vertical visé? Alors, je vous disais, on en a deux, Discord et email. Et on va en lancer au moins une autre, là, sur laquelle on est en train de discuter. Ce n'est pas encore fait, je ne vous en parle pas. Mais on va continuer à compléter ça, certainement sur des services e-commerce et globalement marketing digital, en fait. Tous les trucs qui t'aident à grossir en ligne. L'été est-il une période creuse pour les agences? Prospecter est-il faisable à ton sens, dit Tristan Guerriac. Alors oui, absolument, parce que malheureusement, pour prospecter, il faut que les gens y répondent. Et du 15 juillet au 15 août, il n'y a personne. Et quand ils vont rentrer le 15 août, ils vont voir 40 000 messages d'un coup. Et donc, ton message de prospection, il va être au milieu de 40 autres messages. Donc, il va probablement passer à la trappe. Donc, l'été, c'est fait pour travailler sur les tâches de fond. Il faut être stoïque, te concentrer sur ce que tu contrôles. Pas contrôler que les clients ils aient se dorer la pilule sous le sunlight des tropiques. Il faut travailler sur les trucs de long terme. Ou alors toi-même partir en vacances. Sinon, que penses-tu du format vidéo sur LinkedIn? Encore Tristan. Dope or nope? Alors moi, je kiffe. Pas parce que c'est celui qui fait le plus de reach, mais parce qu'il n'y a personne qui en fait. Et que ça humanise beaucoup. Et que c'est une... En fait, voilà, la marque personnelle sur LinkedIn, ça va plus loin que juste faire des impressions. C'est aussi que les gens ils t'associent à des valeurs, qu'ils voient ta gueule, qu'ils puissent juger ta personnalité. Donc la vidéo, pour ça, c'est connu depuis des années, ça marche bien mieux, personne n'en fait. Fais des vidéos d'une, deux minutes. Moi, j'essaie d'en faire et je sais que ça me met dans une catégorie souvent assez unique de créateurs de contenu vidéo sur LinkedIn. c'est arrivé. Si tu as les moyens d'en faire des sympas, fais-le. Comment tu fais pour devenir intéressant dans ton contenu ? Dit Théo.JHL. Alors, c'est pas une question si conne que ça, je trouve. Parce que moi, quand j'écoute des podcasts, donc, bah, typiquement le Chris Bumstead là d'avant, ou n'importe quel autre auteur, conférencier, etc., ou entrepreneur, je les trouve trop intéressants. Donc des Naval, des Oussama, etc., je les trouve mais brillants quand ils parlent. Je me dis, mais comment je pourrais avoir un jour le quart de leur niveau ? Et donc je me suis dit à un moment, bah, écoute, il faut que je fasse attention quand je dis un truc, à ce que ce soit intéressant. Et bah, donc je peux te donner une semi-réponse à ta question, c'est que tu ne deviens pas intéressant en essayant d'être intéressant. Ça, à chaque fois que j'essaie de dire des trucs intéressants, ça sent un ramassis de trucs abjects, pas structurés, terribles. Je suis meilleur en improvisation et en delivery sans réflexion. Donc je te conseille, pour devenir intéressant, mais intéresse-toi en fait à des trucs. Écoute des gens intéressants déjà et passionne-toi d'un truc et parle-en comme si tu en parlais à un pote. Et tu vas voir que tu as plein de gens qui vont trouver ça intéressant, tu vas pas comprendre pourquoi. Moi je comprends pas par exemple pourquoi vous écoutez une heure de ce que je vous raconte là. À chaque fois quand j'ai un truc, je fais bon, je peux parce que j'ai enregistré, mais j'en attends pas des patates parce que je vois le niveau des gens que j'admire et je sais que j'en suis encore très loin. Jules comme César, le building public t'apporte CB 2% de tes deals versus outbound. Plus, sont-ils bien qualifiés ? Alors, pas grand-chose, Jules. Vraiment pas grand-chose, le building public. Je le fais plus parce que je kiffe. Mais je pense que ça doit être, grosso modo, bon, j'ai pas la data exacte, mais je dirais à peu près 20%. C'est entre 10 et 30 qui sont apportés par le building public. Aujourd'hui, nos deux sources principales d'acquisition, c'est le bouche-à-oreille et quand même LinkedIn. Donc, un petit peu entre guillemets, mais pas vraiment le building public. Parce qu'en plus, c'est plus la marque personnelle de Mathieu, parce que quand je vous dis le lead LinkedIn, c'est les lead linkers aussi. Et ce n'est pas toujours les plus qualifiés. Les leads les plus qualifiés que tu pourras avoir, ce sera toujours ceux de bouche-à-oreille recommandation. Quand tu as été recommandé par quelqu'un, ça marche très bien. Et surtout, les gens intéressants connaissent souvent d'autres gens intéressants. Et ça marche aussi pour les employés dans votre boîte. Voilà. Si vous avez des programmes de cooptation, souvent ça ne marche plus. C'est quoi ton process secret pour recruter les meilleures personnes ? J'ai déjà répondu. À partir de quand l'argent est devenu qu'une métrique de succès de Koudak ? Dit Axel JVS. Qu'une métrique de succès ? Je sais pas trop ce que ça veut dire. À partir de quand l'argent est devenu qu'une métrique de succès ? Bon, bah, je sais pas. J'ai l'impression que tu veux dire par opposition à quelque chose. Qu'aujourd'hui, et qu'avant c'était plus que ça, et c'est devenu seulement une métrique de succès. Aujourd'hui, c'est pas ça la métrique de succès hein, de Koudak. C'est le nombre de clients qui nous recommandent chaque mois. Et c'est ça qu'on mesure, c'est notre North Star. C'est comme ça qu'on mesure si on fait du progrès. Et forcément, sur le long terme, ça doit se traduire par du chiffre d'affaires. Mais là, typiquement, ces deux derniers trimestres, on n'a pas fait des croissances de port, donc on a fait par rapport à l'année dernière 40 et 20%. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas progressé, quoi. Mais bah, voilà, du moment que la North Star, elle avance, c'est ça qui est important. Quels sont les trois axes majeurs de développement de Koudak sous 90 jours ? Alors toi, tu fais des plans 90 jours. Tu fais des priorisations un peu artificielles. J'ai pas trois axes majeurs de développement de Koudak. Je veux continuer à travailler sur devenir le safest bet pour nos clients. Donc, fais en sorte que ça se passe jamais mal quand on bosse avec nous. Donc, pour ça, je nivelle par le bas. J'essaie de limiter le plus possible le nombre d'expériences sous-optimales plutôt que de maximiser la qualité des expériences max. Même si on fait les deux en même temps, on s'occupera du reste plus tard. Mais voilà. Donc, non, j'ai pas trois axes majeurs de développement et certainement pas sous 90 jours. Est-ce que, donc c'est Waldi, je suis encore gros sur ton nom, désolé gros. Est-ce que tu peux nous partager qui t'aimerais avoir au board advisor de Koudak ? Alors, je ne sais pas exactement qui j'aimerais, parce que ça fait écho à un post LinkedIn que j'ai fait hier, où je posais la question hypothétique aux gens de si jamais il y avait un board à Koudak, donc un board c'est des personnes extérieures à la boîte qui viennent donner des conseils tous les trimestres, etc. Et qui ça serait ? Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai des grandes catégories de gens auxquels j'aimerais bien soumettre mes idées. C'est d'abord une personne qui a fait une grosse agence, première chose. Seconde chose, une personne qui est très forte en sales et qui a beaucoup de réseaux dans le marketing digital, donc qui sait structurer une équipe. C'est un truc sur lequel on est un peu faible. Il y avait autre chose. Oui, et troisième chose, quelqu'un qui est fort en M&A, donc en rachat de boîte. Qui sait faire des trucs, qui sait faire de la croissance externe et qui pourrait nous apprendre à grossir comme ça, parce que nous on le fait un peu au doigt mouillé. Et après, voilà, bon, des gens qui ont du réseau, des gens qui ont des gros cerveaux, qui ont fait des grosses boîtes, ça m'intéresse. Peut-être quelqu'un avec une boîte bootstrap qui l'a menée assez haute. Et je pense que 3-4 personnes, ça suffit hein, pour un bon board. Je te vois une fois par trimestre, tu leur fais acheter des parts de ta boîte parce qu'il faut qu'ils soient skin in the game aussi. Et après, ça se passe bien. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup, mille fois. Et n'oublie pas d'aller mettre une note sur Spotify et Apple Podcasts. 5 étoiles, ça aide énormément. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine. Ah non, il faut que je fasse un teasing quand même de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Je vois mon calendrier. Ouais, c'est ma dernière semaine de taf avant que je parte une semaine en vacances. Ouais, je sais pas s'il y a des trucs incroyables. Ouais, non, j'ai beaucoup de déjeuner. Sur quoi est-ce qu'on va travailler? Non, bah les amis, je suis désolé. Je suis impossible pour moi de vous faire un teasing avec des événements que je peux vous partager. On a des gros deals en cours. Non, écoutez. C'est un fail pour cette partie-là. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Il faudra attendre la semaine suivante pour Road to 10 Million, le podcast. Je vous aime. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur la plateforme podcast de votre choix. Bisous.